C'est le moment où j'ai la soirée, bienvenue avec Leïla Kadokoudadi, Morgane Carignan, Paul Mirabel, bonjour. Daniel Morin. Ah, juste Morgane. Préciser d'ailleurs que... Il n'a pas le Covid, mais il est juste un tout petit peu fatigué, enrhumé, notre Tanguy Passion.
On t'embrasse, Tanguy, on t'embrasse.
Je l'ai pas dit hier, j'ai totalement oublié, j'en suis totalement désolé, mais on est très transparent sur l'état mental, déjà, de chacune des personnes.
Oh non, faut pas tout dire, Tanguy, non,
on dit
pas tout,
dit pas tout. On va publier son bulletin de santé, d'ailleurs.
Voilà. Ouais.
Et 38 doses, maintenant.
Voilà. Tu l'as prise personnellement.
Bien sûr.
Très bien. Et nos invités aujourd'hui sont Fanny Ardant et Mélie Poupeau. Nous allons parler d'un très beau film qui s'appelle Les Jeunes Amants. Il est très beau, il est très bon aussi, avec Melville Poupeau et Fanny Ardant qui sont nos invités. Il y a également dans au casting de ce film Cécile de France et Florence Loiricaille qui est juste bouleversante, mais d'ailleurs tous jouent bien. D'ailleurs, il faudrait quand même se poser des questions. Lorsqu'un film est bon, lorsque les acteurs jouent bien, c'est peut-être la faute de la réalisatrice
Florence
qui s'appelle Karine Tardieu.
C'est celle qui est dans
Le Bureau des Légendes.
Ouais, exactement. Ouais.
Elle notamment.
Elle est dingue. On va parler donc avec eux de ces jeunes amants, une histoire d'amour, mais pas comme les autres. Mais pour évoquer, qui c'est qui tape son micro là? Pourquoi?
Elle a envie d'un peu d'attention.
T'étais au courant qu'on est à la radio?
Vous regardez que... pas.
Ouais, t'as vu comment t'es.
Bah, en tout cas, ça marche.
Oh, arrêtez, ça, on va dire
d'être très transparent sur la tenue de ce matin.
Un peu trop.
Je me suis levé un peu tard.
Non, c'est ça. Oui, t'es un peu terrassé en pige en fait.
Un petit peu.
Voilà, très bien. Mais si tu sais quoi, si tu te sens chez toi, on a déjà gagné. On a déjà gagné beaucoup.
T'as mis mon Marcel quand même.
Attention, c'est le blind test.
Daniel.
Oui.
Johnny.
Et le titre?
Idole des jeunes.
La fille souvent me guette.
J'ai l'impression qu'on fait tout le temps le même blind test.
Moi, ça m'arrange.
Non, mais il y a eu beaucoup de titres avec jeunes.
Si c'est ça, ça m'arrange.
Oui, c'est titre avec jeunes. On est d'accord.
Mais pas une dans mon cœur.
Qui chante ça?
Morgane.
Oui.
Patrick Bruel. Les Amants de Saint-Jean. Non. Ah ben il y a Amant du coup. Voilà. Je me disais c'est bizarre, il n'y a pas jeune.
Ça m'atteste avec Amant.
Je me disais il n'y a pas jeune, mais non c'est bizarre.
T'es comme Nagui, tu fais les questions et les réponses.
Oui. Là je suis autonome, hein, au moins comme ça, personne ne m'emmerde.
Autonome. Voilà.
Allez, pareil, t'es devenu propre.
Elle se met elle-même à la sieste, elle se met
elle-même. Contrairement à toi, elle est propre. Ouais.
C'est oui, vrai, je sais. Mais je travaille.
Un point pour Leïla, un point pour Daniel. Qui chante ça?
Morgane.
Oui.
C'est James.
Oui.
Ah, jeune demoiselle. Oh non.
Là sur la rapidité de réaction là.
Fidèle.
James revient s'il te plaît.
Recherche un mec qui rêve de famille et de toucher
le ciel. Donc si t'as les critères, paye, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec. Il faut reconnaître qu'elle a découvert James. Non pardon,
ah oui, là-dessus, sur Bruel.
Non.
Ouais,
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 ouais.
Qui chante ça?
Morgane.
Daniel.
Oui.
Brel.
Joli. Tu peux pas donner le titre?
La chanson des vieux amants.
Qu'est-ce que j'ai chopé là-dessus? Rappelle Nagui. Quand tu t'appelais Dolores,
elle est d'une beauté cette chanson.
Il peut même pas
chose.
Te répondre.
Non, je peux pas.
C'est l'émotion, ça le prend la gorge.
Il arrive à nous gâcher Brel, c'est fou ça.
C'est ça. Ouais, mais ça va, elle me fait pleurer cette chanson.
C'est toujours la même chose, Brel, c'est bon, ça va.
T'as pas de cœur en fait.
Si, mais.
Ou, bah, t'as pas de cœur. Il te manque beaucoup d'organes, mais dont celui-là. Qui chante ça?
Leïla.
Leïla.
16.
Donc vous avez compris le gimmick, un peu de jeune, un peu d'amant, on est avec les jeunes amants,
jeunes amants.
Tout va bien, qui chante ça?
Moi je suis Hélène.
Oh là 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 là, Daniel.
Edith Piaf.
Ils sont arrivés, hein, se tenant par la main.
Mais Piaf c'est pareil, t'en entends, t'as tout entendu quoi.
Mais arrêtez, tu respectes toi.
Je vais recevoir du courrier.
Tu veux lire des trucs toi?
On est dans une situation très intéressante.
C'est serré.
Suspense. Non, c'est pas Mentes, c'est Manap Suspense.
Pardon. Je pense que c'est Paul qui va nous départager.
Exactement. Il y a 2 points pour Leïla, 2 points pour Morgane, 2 points pour Daniel. J'adore. J'adore.
Et là, c'est le super...
C'est le Money Time.
SB.
C'est exactement. Exactement. Tout se joue là-dessus. Qui chante?
Big Flo et Oli.
Non.
Pourquoi?
Bah parce qu'il y a un truc avec jeunesse chez Big Flo et Oli.
bah non, il y a beaucoup de tissage.
Morgane ?
Oui.
Louane ?
Jolie !
Bravo.
À la voix.
Jolie ! C'est parti du blind test. Avec Jeanne, tout simplement, pour parler des jeunes amants, le blind test remporté par Morgane Cadignan, mais tellement,
Bravo, Morgane.
À l'aise. Merci d'accueillir Fanny Ardant et David Poupeau.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Soyez les bienvenus et comme nous l'avons dit juste avant, j'aime bien ce nous alors que c'est, j'assume totalement d'avoir dit tout seul,
mais c'est ça.
Comme nous l'avons dit juste avant de démarrer cette émission, lorsqu'un film a d'aussi bons comédiens et aussi bons scénarios et une aussi belle lumière, il y a un moment où ça devient la responsabilité de la réalisatrice Karine Tardieu, Les Jeunes Amants, et il s'agit de vous, Fanny Ardant et Melville Poupeau. J'ai dit une histoire d'amour, mais pas comme les autres. Comment vous la présenteriez, cette histoire d'amour, Fanny Ardant ?
C'est lui qui sait mieux parler.
Ah, pardon, je ne vais pas vous déranger.
Non, bah, c'est un grand mélo. En fait, c'est vrai que le sujet du film, c'est le coup de foudre.
Le coup de foudre entre un homme et une femme, c'est ça ? Donc c'est pour
Exactement.
Ça que j'ai dit une histoire
un homme
d'amour.
Et une femme.
Une histoire d'amour pas comme les autres.
Pas comme les autres parce qu'il y a une différence d'âge et que ça c'est pas commun. Mais en fait, quand on regarde le film, c'est vraiment un prétexte à faire un mélodrame et à parler de l'amour absolu qu'on rencontre tous les deux, peu importe l'âge. Et là, on redevient des adolescents qui cristallisons.
En même temps, moi, quand je vois Fanny Ardant, je peux tomber amoureuse à chaque seconde.
Eh ben voilà.
Non, c'est vrai.
Vous n'êtes pas seule.
Ouais, oui. Alors c'est ça le problème, d'ailleurs.
Oui, et pourtant, votre personnage a mis un peu son histoire, ses histoires d'amour ou sa vie privée de côté.
Oui, parce qu'elle est... Elle est intelligente, cette femme. Elle est lucide. Elle... C'est pas une prédatrice ni une séductrice. Donc c'est une femme qui a été une grande architecte. Et puis, elle n'est pas très sociale. Donc elle a cette petite maison sur le bord de la mer d'Irlande. Donc pour elle, elle y pense même pas. C'est pas quelqu'un qui dit, ah, je voudrais rester dans l'activité amoureuse.
Elle n'a pas été très heureuse en amour, déjà.
On ne sait rien. On sait que juste, elle avait eu un mari qui l'a trompée.
Bon, ça veut dire qu'elle n'était pas très heureuse, quoi.
Un mari, quoi.
Ça sous-tend que le bonheur n'était pas complètement au rendez-vous, vous voyez bien. Wow. S'il l'a trompée sans cesse, elle n'était pas...
Moi, je me suis toujours demandé ça. En fait, elle a dû attendre l'amour comme quelque chose qui la fulgurerait. Et quand, tout d'un coup, elle a rencontré pour la première fois ce docteur à l'ouverture du film, c'est quelque chose, vous savez, comme qui plane. On peut pas mettre un mot dessus. Et quand 15 ans après,
il se retrouve.
En fait, quand on parle toujours de la différence d'âge, mais ce n'est pas une attraction sexuelle avec une belle nuit qui passe. C'est comme s'il s'était reconnu parce que c'était lui, parce que c'était elle. Donc ça commence par comme si les âmes s'attachaient.
Dans un moment particulier, c'est pas la rencontre, elle compte 15 ans avant le début de cette histoire d'amour. C'est un moment qui est vraiment fatidique au sens où vous, votre personnage, est sur le point de perdre sa meilleure amie, sa sœur d'âme. Il y a un lien fou entre ces deux femmes. Et vous votre personnage,
vous êtes le docteur.
Vous venez de perdre un enfant.
Oui. Ça c'est très beau dans le film, mais il faut pas en dire trop parce qu'il y a des petites surprises quand même dans ce film. C'est pas un film à suspense, mais l'amour et le suspense du film, et on s'attache au personnage, on vibre avec lui jusqu'à la fin. Donc il y a des...
Alors pour en revenir à l'histoire d'amour, en effet, elle est plutôt solitaire, n'attendant rien finalement de ce que la vie pourrait lui apporter. Et vous êtes dans un moment où on pourrait dire aussi où les couples peuvent se resserrer aussi, se ressouder à nouveau. Vous vivez des épreuves. Mais vous avez un enfant, vous êtes avec Cécile de France qui est très épanouie aussi et très heureux aussi dans votre vie.
Absolument, c'est ça qui est beau dans le film, c'est que moi je m'attends pas du tout à tomber amoureux. Ma vie est bien réglée, je suis un médecin responsable, rassurant, un mari rassurant. Et comme disait Fanny, quand on tombe l'un en face de l'autre, tout à coup, c'est quelque chose comme si ça avait toujours existé, qu'il manquait plus que la rencontre.
Alors, on tombe pas forcément amoureux d'ailleurs quand on est malheureux en couple. Ça, c'est joli aussi de raconter ça. On peut tomber amoureux quand on est très très heureux par ailleurs.
Oui. Mmh. Enfin, ceci dit, mon histoire d'amour.
On ne tombe jamais amoureux si on cherchait à tomber amoureux, puisqu'il y a ce verbe tomber.
Oui.
Donc, il y a quelque chose.
Il y a presque quelque chose de négatif, quoi. C'est une chute. C'est un abandon.
C'est vertigineux.
Ah, tomber, oui, tomber,
c'est pas négatif.
Pas...
Mais l'abandon,
non,
ça, peut être
négatif.
Ça peut être beau, l'abandon.
Alors, trouvez-moi, c'est quelque chose qu'on peut pas,
gérer. Empêcher, quand on tombe, ouais, c'est ça. On peut pas l'empêcher.
Ah, c'est ça. Trébuche, on tombe parce que
comme
c'est
l'attraction,
plus fort que...
l'attraction,
laisse d'être.
Peut l'être. Et alors, la seule différence qu'il y ait peut-être entre les deux, c'est que l'un des deux se souvient très bien de l'autre, ce qui est pas forcément le cas de Fanny Ardant. Le médecin, lui, a bien en tête le personnage incarné par Fanny
Ardant.
15 ans après, il sait qui elle est.
Oui, dans l'histoire, c'est quand même l'homme qui est assez leader, assez moteur de cette histoire. Lui, il est vraiment, il succombe. Ouais, il succombe. Et c'est plus fort que tout, il faut qu'il rencontre cette femme, il faut qu'il passe du temps avec elle. Ce qui est beau, c'est aussi tous les petits moments de rencontre, les premiers regards, les premiers textos, et la fébrilité qu'on retrouve, et ça c'est pas une histoire d'âge, parce qu'on a 17 ans ou à 70 ans, c'est la même chose. On est fébrile quand on est amoureux, et au début c'est compliqué, on n'ose pas, et on redevient tous un petit peu ces adolescents du premier amour.
Alors justement, Melville Poupeau, si on faisait l'exercice de raconter cette histoire sans qu'il y ait un problème de différence d'âge, c'est-à-dire en disant simplement... que c'est une histoire d'amour, ouais. Et que c'est le regard des autres qui va commencer à poser un problème, et c'est aussi de se dire quel est notre avenir en tant que couple si on continue de le faire ensemble. On pourrait aussi le raconter comme ça, en se disant que le problème n'est...
Enfin, mais
que...
ce serait peut-être pas un aussi bon film.
Non.
Parce que pour que ce
non,
soit un mélo, il faut que l'amour soit empêché, c'est ça qui compte.
J'entends, mais les deux questions qui se posent, c'est que vont penser les autres, et la manière, le regard de votre fille sublimement interprétée par Florence Loire-Écaille, qui est une actrice formidable, le regard de Cécile de France sur votre couple aussi, qui au début est même presque, et on le voit dans la bande-annonce, c'est pour ça que je me permets de le dire, elle est très détendue sur le côté, t'as eu une aventure, ouais, ok, d'accord, ça va.
Oui, quoi. Une vieille dame,
passons, rit. Passons à autre chose, non, passons, dans un premier temps, elle apprend qu'elle a été trompée.
Parce qu'elle l'a fait elle aussi, d'ailleurs.
Voilà, elle réagit en disant...
Ouais, okay. Comment ça?
C'est dans la bande-annonce. Regardez la bande-annonce avant de faire le film.
Oui, et il y a aussi mon meilleur ami qui est interprété par Sharif Andoura, un excellent comédien.
Exact.
Qui lui aussi a une vie d'un peu de vieux garçon, qui sort qu'avec des jeunes filles et qui tout à coup se remet en question face à cet amour. Mais ce qui est beau, c'est qu'on sent que cet amour, il est tellement précieux, tellement rare, qu'autour de nous, les gens s'inclinent finalement et presque sont heureux pour nous.
Finalement, c'est pas tant les autres qui posent un problème. J'ai l'impression que c'est votre personnage à vous, Fanny Ardant, qui s'interroge sur le bien fondé de cet amour.
Et qui s'interdit même, ouais.
Oui. Qui
oui, en plus, parce qu'elle se dit... oui, elle n'a pas confiance en elle. Donc c'est pour ça que quand elle s'interdit, elle a cette vulnérabilité, elle est très consciente d'elle-même, elle est lucide sur son corps, surtout. Donc elle se dit, mais... il est fou, cet homme.
Elle est lucide, mais au fond, il y a qu'elle qui ne voit pas à quel point elle est irrésistible.
Peut-être. Et que, justement, ensuite, après, on ne peut pas encore raconter tout dans le film, mais elle aime tellement cet homme qu'elle ne veut pas l'entraîner dans une sorte de chemin de croix qui va se produire. Mais en même temps, quand vous...
Quel est notre avenir? La phrase est dite, d'ailleurs.
Oui.
Mais quel est notre
avenir?
Oui,
mais moi, je trouve que les grandes histoires d'amour, c'est celles... dans lequel on s'engage sans rien vouloir construire.
En jouant simplement, Hollande, on verra bien.
Oui, parce que
on tient jusqu'à demain et on verra ce que ça dure.
La société, elle est faite ainsi que on se marie, on a des enfants, on achète une maison, on paye ses impôts, on marche tout droit. Tandis que l'amour qui se passe entre les deux êtres contre les lois et les dictats de la société, pour moi, c'est toujours ça. Un grand amour sans vouloir rien construire.
Les jeunes amants, la définition de ces, le titre, l'explication du titre d'ailleurs, jeunes amants, c'est parce que c'est leur amour qui est jeune, c'est leur, c'est cette aventure qui
ils redeviennent jeunes.
Et voilà, et en même temps, eux-mêmes redeviennent jeunes aussi, éperdument amoureux l'un de l'autre. Fanny Ardant, Melville Poupeau sont nos invités jusqu'à midi et demi. Ce film est sublime. Je ne sais pas si mademoiselle, madame Karine Tardieu, vous nous écoutez, mais vraiment. Bravo. Sincèrement, bravo, parce que la direction d'acteurs, le choix des acteurs, le choix des cadres, la lumière est totalement dingue aussi. Et, oui. Et j'imagine, vous nous direz après comment vous avez. C'est ta journée, hein.
Je suis un peu fébrile.
C'est tous les bruits. Alors, tous les bruitages de Valentine viennent du ventre de Morgane Cadignan directement, comme ça, vous ne posez aucun problème.
Faut dire un mot de Solveig Anspach quand même.
Oui, je veux juste finir sur Karine Tardieu et je serais curieux. curieux, et je vais vous interroger tous les deux sur la manière dont vous avez travaillé avec elle. Parce qu'une direction d'acteur, nous, profanes, on sait. Est-ce que c'est simplement va à droite, va à gauche et dit ta phrase, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin dans les intentions, dans le ton de la voix et dans la manière de jouer? Tu voulais dire un mot, je t'en
Après,
prie.
Hein, je
non, vas-y, vas-y, dis-le.
Oui, ouais. Oui, non, mais la Solveig Ganspach, c'est un gros dossier aussi, on va l'ouvrir.
Un gros dossier.
Melville, à vous.
Mais pour la direction d'acteur. En fait, Karine Tardieu avait son film en tête depuis longtemps, parce qu'elle avait donc récupéré ce scénario qui avait été initié par Solveig Ganspach et Agnès de Sacy, la co-scénariste.
Elle dédie d'ailleurs le film.
Absolument, parce que ça devait être le dernier film de Solveig Ganspach, ouais. Mais comme elle est morte, elle a paralysé le film. Et le producteur Patrick Sobelman a proposé de reprendre le à Karine de reprendre le projet. Et finalement, Karine a réécrit le scénario, se l'est approprié, mais a gardé l'essence et l'histoire originelle qui est une histoire vraie.
C'était pas ça ma question. Ma question,
non,
c'est
la direction
comment.
D'acteur.
Ouais, exactement.
Je m'en
exactement.
Souviens,
quand elle est à côté, quand elle est à côté de la caméra.
Croyez-en tirer comme ça.
Quand elle est à côté de la caméra, quand
Fanny met des petits coups de pied. T'as vu, t'as pas répondu à la question.
Quand elle vous dit, elle peut pas vous dire comment jouer, mais comment elle vous dirige?
Eh ben, elle nous dirige très bien. Elle nous dirige parce qu'elle avait son film très en tête, chaque plan, chaque ligne de dialogue, la direction artistique, les costumes et aussi le jeu d'acteur. Elle avait vraiment pensé son film et elle avait envie que ce soit un film un peu romanesque, épique, romantique, presque hollywoodien dans sa facture. Donc le choix du scope, et puis ces dialogues très efficaces, ces punchlines, chaque personnage est très bien servi en dialogue. D'ailleurs, on a pris beaucoup de plaisir à les dire sur le plateau.
Et est-ce que Melville, Poupeau, vous êtes tous les deux de grands acteurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que j'exagère en disant que de très bons acteurs peuvent être mauvais dans un film s'ils sont mal dirigés?
Ah bah souvent. Hein.
Fanny, vous avez une théorie là-dessus?
Alors moi je dis qu'il n'y a
vous
pas...
Vous avez fait un signe oui de la tête en tout cas.
Non, mais oui, mais parce qu'en fait... Pour élargir le spectre, je pense qu'il n'y a pas de bons et de mauvais acteurs. Il y a ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Mais que c'est complètement subjectif.
Oui.
Tu sais, quelqu'un en sortant du film peut dire « je ne peux pas supporter un tel ou un tel ».
Il y en a qui jouent faux, qui sonnent faux, qui ne sont, pas, qui sont pas à l'écoute de leur partenaire.
Il y en a qui vont les trouver bons et qui
ou ceux qui surjouent. Enfin, je veux dire,
du coup, on ne les aime pas.
Non, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plutôt vrai ce que vous dites au théâtre plutôt qu'au cinéma?
Pour surjouer, oui, mais
non, parce qu'au cinéma,
il m'est déjà arrivé de trouver des acteurs que j'adorais, mauvais dans certains films et excellents dans d'autres. Donc je me demandais d'où venait cette différence de qualité de jeu, et je me demandais si c'était pas simplement le moment où on est bien dirigé ou pas bien dirigé.
Bah, tu disais ça de Daniel Auteuil.
Disons qu'il y a des films dans lesquels on se sent à l'aise aussi, des tournages sur lesquels on se sent à l'aise, des metteurs en scène avec qui on est bien, et puis des partenaires aussi avec qui ça joue bien. Il y a des situations où effectivement ça grippe un peu parce qu'on n'y croit pas nous-mêmes sur le tournage.
Et
ça,
le
c'est
texte,
horrible,
faut le texte que vous avez parfois à défendre, parfois on voit des films où on se dit cette partition elle est quand même horrible, comment faire pour sortir quelque chose
ça,
de recevable?
C'est des acteurs qui tournent trop aussi, parce qu'à force de tourner, au bout d'un moment ils peuvent pas faire que des bons films, et quand ils se retrouvent dans des films qu'ils aiment pas, ils aiment plus leur métier, au bout d'un moment ils baissent les bras et ils sont plus vraiment là, quoi. C'est ça qui... Quand on est d'acteurs qui tournent trop.
Les Jeunes Amants, ce mercredi au cinéma, demain, un dodo, et vous pourrez voir ce film avec Fanny Ardant, Melville Poupeau, qui sont nos invités jusqu'à midi et demi. On est ravis de les accueillir. C'est notre bruiteuse qui va maintenant vous dire exactement ce qu'elle pense. Nous, on vous adore, mais ce n'est pas le cas de Morgane Cadignan. Morgane ne vous aime pas, Fanny Melville.
Ah, Fanny Ardant, bonjour Melville Poupeau. Je vous aime pas, mais Fanny Melville, merci. Déjà, merci la vie d'être le 1er février. Hein, on se réjouit un peu que c'est ce mois de janvier 2022 soit terminé à jamais. Moi, ça commence à suffire, les galettes des rois, où on est un peu déçu que la fève, ça soit pas un demi-tramadol. Donc, merci. Fanny Melville, merci aussi pour le film, parce qu'enfin, c'est dans ce sens-là. Je dis pas qu'il y a de bon sens dans l'amour. Hein. Si vous observez bien, quand on tombe amoureux, c'est jamais le moment, c'est jamais l'endroit, c'est jamais la bonne personne. Et dans mon cas, c'est jamais réciproque. Alors, non mais je pleure pas sur mon sort, hein. Parfois il y a quelqu'un qui est amoureux de moi et moi je suis là, un Bermuda mec, sérieusement, tu veux m'offrir le monde, tu peux même pas t'offrir un pantalon en entier, de quoi parle-t-on? Bref, parfois c'est quelqu'un de trop jeune ou de trop vieux ou de trop enclin à vous faire souffrir. Bon, là on se concentre sur la différence d'âge, et enfin elle est dans ce sens-là, parce que la jeune nana qui tombe amoureuse d'un mec plus vieux, on en a soupé mes enfants, et dire on en a soupé mes enfants prouve que je me mets pas du tout dans le groupe des jeunes nanas, mais plutôt dans le groupe des mecs plus vieux. Mais c'est vrai qu'on en a entendu prononcer dans la vie, dans la fiction, Il va quitter sa femme, là c'est pas facile pour lui, ses enfants sont petits, il est pas vieux, il a de l'expérience, l'amour rend aveugle. Le gars, en plus d'avoir des excuses en carton, il a une hanche en plastique, c'est plus un mec, c'est un emballage de resto chinois, mais accroche-toi ma fille, t'as raison. Après, en vrai, moi je suis pas fondamentalement contre la différence d'âge, quand il s'agit de l'amour, je suis contre rien, même pas contre quelqu'un. Dieu que cet hiver est long. Non mais, chacun fait bien ce qu'il veut, et se fait bien ce qui lui chante dans sa vie. Moi, si j'arrive demain amoureuse d'un mec plus vieux en disant à ma mère, maman, voici Patrick Modiano, je l'aime, bah, elle sera contente pour moi. Ma chérie, voici un homme qui ne te fuira pas parce qu'il en est physiquement plus vraiment capable. Le truc, c'est que quand la vie devient œuvre de fiction, pourquoi les représentations des gens qui s'aiment sont-elles toujours un peu les mêmes? Dans le cinéma, souvent, une femme de plus de 40 ans, elle tombe pas vraiment amoureuse. Ou alors si, mais c'est parce qu'elle est en pleine crise de la cinquantaine et qu'elle refoute tous les doutes sur son mariage sur un traiteur grec du coin de la rue qui fume des joints, probablement joué par Vincent Lacoste. Mais l'histoire ne dure pas. On dit que c'est une passade, qu'elle a eu un moment d'égarement, parce que c'est plus simple de qualifier les grands chamboulements de moments d'égarement. Être chamboulé soi-même, c'est déjà un gros chantier, alors chambouler le regard de la société, ça devient un immense bordel. Et là, grâce à la magie de Karine Tardieu, tiens donc une femme, le chamboulement, il est inversé, et le champ des possibles, il vient de prendre 10 hectares en 1h50. Votre personnage, Fanny, 70 ans, Fanny Ardant, quoi, hein, donc le personnage lumineux comme qu'elle vit au mois d'août, cette femme qu'on peut pas regarder sans prendre le risque de se cramer la rétine, ou à minima le risque de l'aimer, elle est désirable, elle a pas peur, et votre personnage à vous, Melville, il s'est bien cramé la rétine, mais il arrive encore à voir que derrière un homme de 45 ans et une femme de 70, il y a surtout bah un homme et une femme, tout simplement. Mais je crois que Claude Lelouch, il a déjà fait un truc là-dessus, donc flemme. Donc moi, ce film, ce mois de janvier qui se termine, ça me donne envie de vous dire, allez au cinéma, aimez-vous, dans n'importe quel sens, puisque de toute façon, la vie n'en a absolument aucun.
Merci.
Bravo. Et ce week-end, tu es sur scène
à Marseille, le 4 et 5.
C'est vrai que ramener et de dire c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, après il y a évidemment les circonstances, le contexte, mais cette différence d'âge était évidemment au cœur du film, en y rajoutant le regard des autres et l'interprétation des autres. Je voudrais revenir sur Cécile de France qui en effet passe d'un état de femme trompée à un état de femme presque agressive, parce qu'elle ne peut pas comprendre qu'elle soit trompée pour, et elle dit, et pardon,
non, qu'elle soit quittée.
Alors elle n'est pas totalement quittée, parce que là aussi le couple
est...
C'est ça.
Elle rit puisqu'elle lit cette vieille dame.
C'est une vieille, ouais, c'est ça. C'est extrêmement méchant quand on le formule comme ça. On parle pas d'une...
Bah, ce qui est beau dans le film, c'est que cette histoire a des répercussions sur tous les autres personnages. Et tout le monde est chamboulé et se remet en cause parce que tout à coup il y a une liberté, il y a quelque chose de pas ordinaire qui se passe. Et ça remet tout le monde un peu en perspective, notamment Cécile de France, qui pensait que son mariage roulait, que tout allait bien, qu'éventuellement elle pourrait pardonner à son mari d'aller voir ailleurs une nuit ou deux avec une petite jeunesse. Mais là, tout à coup, elle se sent challengée, elle se dit « mais c'est pas possible que ça arrive, c'est forcément le vrai amour ». L'amour que nous, on n'a pas eu jusqu'à maintenant.
Est-ce qu'elle se sent challengée, ou le fait que ce soit une vieille dame, comme elle le dit, ça la trouble, ça la choque?
Au début, pour elle,
c'est impensable. Sa première réaction, ouais, c'est ça.
C'est impensable. Comme pour mon ami Georges dans le film, parce que les gens sont stupides et les gens n'ont pas d'imagination et pensent, parce que la société véhicule ça, que forcément un mec va se taper une petite jeune. Mais c'est complètement con.
Sauf que c'est très fréquent.
Oui, mais il n'y a pas que ça.
Oui, non, mais...
Il n'y a pas que ça non plus. Et puis si on continue à dire oui, c'est très fréquent, ça existe toujours et qu'on fait que des films là-dessus, bah les choses ne changeront jamais, films, vous l'avez bien dit, mademoiselle.
Les films, c'est une chose, mais la réalité, c'en est une autre, en fait. C'est aussi ça.
Personnellement.
Et c'est intéressant que le cinéma prenne les devants d'une certaine façon en montrant autre chose, qui montre une réalité qui n'est pas une réalité majoritaire, mais qui existe. Ça peut éventuellement donner des idées, mais...
Est-ce que vous pensez que le cinéma peut changer les mentalités?
Bah, j'en ai quelques preuves, oui.
Fanny, pas du tout.
Bah, j'avais fait le film à ça.
Fanny,
c'est pas le but du cinéma.
C'est ce que disait Melville.
Non, mais j'avais fait le film Grâce à Dieu de François Ozon, ouais, qui révélait beaucoup, enfin qui parlait beaucoup de l'affaire, ouais, Prena, et puis les choses ont bougé depuis. Et Dieu merci.
Bonne vanne. Alors que vous dites que le cinéma est fait pour raconter des histoires, Fanny, et chacun fait ce qu'il veut.
Non, je n'aime pas l'idée que le cinéma deviendrait des leçons de morale, ou que le cinéma deviendrait pour transformer les citoyens en bons citoyens. Ça m'exaspère, ça. Parce que c'est pas le but ni de la littérature, ni du théâtre, ni du cinéma. C'est pas faire qu'on doit bien penser.
J'entends, mais montrer autre chose peut ouvrir l'esprit et peut...
Ah voilà. Mais je pense que c'est le but de l'art, de bousculer les esprits et d'ouvrir le cœur.
Morgane ?
Et en parlant de montrer, enfin moi, ce que j'ai ressenti dans ce film aussi, c'est que c'est un film qui raconte la force des femmes entre elles. Parce que qu'elles soient choisies, pas choisies, trompées, c'est, les trois rôles féminins, c'est quand même les plus solides dans l'histoire.
Ah, bah... Oui. Le cri de
le scénario en fait.
Non non, il est solide, mais je sais pas, il y a quelque chose dans les rôles féminins où il y a des scènes qui sont hyper fortes.
Mais d'ailleurs, Solveig, quand elle était malade et qu'elle a senti que c'était la fin pour elle, elle a demandé à Agnès de Sacy, la scénariste, que le film soit réalisé au-delà d'elle et que ce soit une femme qui le réalise. Parce qu'elle sentait justement qu'il y avait ce pouvoir-là dans le regard d'une femme de magnifier ses personnages.
C'est féminins. Une histoire vraie.
Oui, cette histoire, c'est tiré d'une histoire vraie qui est arrivée à la mère de Solveig.
Voilà, ce n'est pas précisé d'ailleurs, parce que de temps en temps au cinéma, il est écrit sur les écrans au début, inspiré d'une histoire vraie, ou toute ressemblance avec une personne, machin, mais qu'il y a toujours ces espèces de clés qu'on nous donne à nous spectateurs quand on rentre dans une salle. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le fait que ce soit une histoire vraie rend le possible et la situation encore plus...
c'est possible, il n'y a pas de raison de dire même que c'est une histoire vraie. C'est possible.
Ça donne envie de vieillir, en tout cas, voilà.
Eh ben, ça vous arrivera malheureusement.
Mais avec grand plaisir, du coup. Avec grand plaisir.
Faut le souhaiter.
Si l'avenir est jonché de rencontres comme ça, on est d'accord.
Melville, pardon, je me suis mal exprimé, vous avez mal pris ce que j'ai dit. C'est pas le fait que l'amour entre un jeune homme et une femme plus âgée soit possible. Je parlais en général, je parlais pas uniquement du film. Je disais pas que ça montre que c'est possible. Je disais que la réalité de cette histoire, avec son enchevêtrement, et je trouve en effet que l'impact, le fait que un couple tombe amoureux, bouleverse, chamboule la vie de tous ceux qui sont autour, c'est pas non plus toutes les histoires d'amour qui ont cette même résonance, ce même impact, ce même effet. Et pardon, mais là, encore une fois, je me place uniquement en tant que spectateur, d'apprendre, et je l'ai appris après avoir vu le film, que c'était une histoire vraie, ça m'a bouleversé une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il y a une surcharge émotionnelle.
Après, nous, on a fait beaucoup de promos, on a beaucoup présenté le film en province et tout ça, et ça, c'est quelque chose qu'on dit forcément. C'est aussi, je pense, pour pas faire de la promo à la base de quelqu'un qui a pas pu réaliser le film, qui est décédé, mais c'est vraiment le film de Karine, c'est elle qui a réécrit le scénario, qui s'est approprié l'histoire, et c'est pas la vérité sur l'histoire de la mère de Solveig. Ouais. C'est plus large que ça, et c'est plus universel aussi.
Cette histoire de passion, d'ailleurs, entre ces jeunes amants, Fanny Ardant, à la lecture, c'était déjà passionnant. Je parle là, cette fois-ci, en termes d'histoire.
Oui, complètement. Parce que j'avais reçu le scénario, et j'ai lu d'une seule traite, et j'avais très très envie de savoir comment ça allait finir.
C'est ce que j'allais dire, il y a un côté presque suspense, je sais pas si on peut employer le mot suspense dans une histoire d'amour, mais...
Si, on veut savoir.
Il y a de l'enjeu en tout cas.
Oui, parce que, il y a un enjeu, on se dit, est-ce qu'il s'aimant finalement
Il y a plusieurs fins possibles, d'ailleurs aussi dans leur manière d'aborder cet amour. À chaque seconde, on se dit...
Que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre.
Ouais. Oui. Chaque seconde. Et puis il y a une phrase que je trouve, je ne sais pas si elle était dans le scénario initialement, mais une phrase qui est d'une légèreté. Vous êtes resplendissante avec un sourire, alors prenez le bien, mais j'allais dire un sourire à la Julia Roberts, ou c'est Julia Roberts qui a un sourire à la Fanny Ardant, mais en tout cas je trouve qu'il y a qu'il y a une espèce de... Non, mais il y a une sororité en tout cas dans ce sourire, dans ce côté solaire.
Éclatant.
Et quand vous regardez... un chien en train de courir en Irlande et que vous lui dites « qu'est-ce que tu croyais ?» Ça, je trouve ça, ce moment-là, il est bouleversant parce qu'elle est, elle est déjà en train de se... Elle s'était finalement projetée.
Complètement.
On ne la soupçonnait pas, mais elle y était.
Et puis, vous voyez, quand elle va pour l'embrasser, et puis il s'équivoque. Ouais. Et en fait, elle a assez d'humour pour dire « mais qu'est-ce que tu pensais ?» Et elle prend à partie le chien.
Ouais, et sous-entendu, elle-même l'y pensait. Les jeunes amants, c'est au cinéma demain. C'est bouleversant et oui, c'est un film réalisé par une femme avec des rôles de femmes extrêmement forts, mais j'encourage tous les hommes aussi à y aller. Faut pas se dire, c'est simplement, c'est un film pour les femmes, avec les femmes, et une histoire de femmes, mais c'est aussi une très très belle histoire d'amour. Et finalement, dans l'amour, s'il y a bien un endroit où tout est permis, en tout cas quand tout le monde est d'accord, ça prend une dimension et une passion absolument bouleversante, et c'est formidablement réalisé par Karine Tardieu. On va continuer d'en parler jusqu'à midi et demi. Voici Monsieur Paul Mirabel.
Paul. Allez Paul. Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Ça va? Est-ce que tout le monde va bien?
Oui, est-ce que tu vas bien toi?
Bah écoutez, moi aussi ça va. Juste, j'ai pris conscience récemment que l'amour à Paris, c'était une notion quelque peu approximative, parce que hier soir, je rentrais de tournée. Vous savez, je suis en tournée en ce moment dans des grandes métropoles telles que Bourgoin-Jallieu, Caluire et Châteauneuf-sur-Isère, qui sont les versions vintage de Grenoble, Lyon et Valence. C'est comme quand tu commandes un câble sur Amazon en pensant que c'est un câble Apple, et en fait, tu reçois un câble Pineapple sur lequel le logo, c'est pas une pomme, c'est un ananas dans lequel on déjà croqué deux personnes. Donc hier soir, je rentre chez moi après cette tournée internationale en faisant rouler ma valise sur le sol, perdu dans mes pensées, en train de me demander pourquoi il n'y a que 28 jours en février. Et là, soudainement, j'entends la douce voix de mon concierge qui m'interpelle et qui me dit très gentiment, je cite, « Tu peux pas la porter ta valise, connard ».
Hein ? Ah ouais.
Oui, donc déjà sur le moment, je me suis dit, alors lui, c'est sûr que les quatre accords Toltec, bah, il les a pas lus. Puisqu'aussi loin que je me souvienne, insulter son prochain, ça ne fait pas partie des quatre. Hein, et ne pas faire de suppositions, pour le coup, c'est raté. Surtout que je crois au karma, moi, dans la vie. J'essaye de me dire que si tu fais quelque chose de bien, il va t'arriver quelque chose de bien. Donc là, immédiatement, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment fait un si mauvais spectacle que ça à Châteauneuf-sur-Isère? Puis après, j'essaie d'avoir un peu de recul et je me suis dit, bon, on est à Paris, peut-être que connard, c'est juste une façon très maladroite de me prouver son affection et de me dire que je l'avais manqué un peu. Peut-être que c'est une version très parisienne de « Salut mon loulou ». D'autant plus qu'immédiatement après, je me suis remis en question et je me suis dit « Ok, une fois j'ai inversé la poubelle papier et la poubelle carton, après est-ce que ça vaut vraiment le coup d'insulter mon arbre généalogique sur cette génération ?» Je ne pense pas. Mais j'ai vu face à cette situation que je me projetais beaucoup trop vite. Et sur le moment, je me suis dit « Allez Paul, tu te retournes, tu lui dis « C'est à moi que tu parles, je vous demande du respect monsieur ». Puis tu lui tires les cheveux en lui mettant les doigts dans les yeux. Puis j'ai réfléchi après et je me suis dit « Bon, c'est quand même plutôt délicat de faire une chronique quand il te manque les quatre dents de devant. » Donc je vais garder cette idée dans un coin de ma tête. Après, loin de moi, l'idée, bien sûr, de me servir du service public pour régler mes problèmes personnels. C'est pas le but de cette radio.
Non, voilà. C'est pas grave.
Ça se verrait.
N'est-ce pas, monsieur Lopez, domicilié dans le 11e arrondissement de Paris, première porte à droite, interphone 23B14.
Mais non. Si.
D'autant plus qu'une fois, j'ai aperçu l'intérieur de son appartement à ce monsieur, dans lequel il y avait un grand drapeau du Portugal et un encore plus grand poster de Clara Morgan. Donc moi, sur le moment, je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû lui serrer la main aussi fort cet après-midi, puisque manifestement, il préfère Clara Morgan à Lisbonne. Surtout qu'au début, je m'étais promis de ne jamais avoir d'altercation avec lui, puisque j'ai pas envie de ressasser une énième fois le fait qu'on nous a volé l'euro en 2016. Là, vous me voyez heureux, mais ça fait 6 ans que je me réveille en pleine nuit, traversé par un spasme, en visualisant Hugo Lloris qui glisse, puisqu'il est en train de se demander si c'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais j'ai quand même élaboré un plan pour riposter. Je vous expose mon projet. Bon, il faut un peu de budget, hein, donc voilà. Mais je pense que dans la nuit, je vais descendre en rappel dans la cour de mon immeuble. Je vais repeindre sa porte en noir et blanc et je vais coller une grosse pancarte avec écrit Footlocker. Comme ça, demain, à 10h du matin, tout le monde va sonner chez lui et lui demander une paire de Adidas en 43 et il va dire, mais j'ai pas de paire de Adidas en 43. Et là, je compte sur un inconnu pour lui répondre, pourquoi il écrit Footlocker sur la porte alors, connard? Voilà. Pardon pour cette vulgarité, mais il fallait que j'extériorise beaucoup de choses ce matin. Merci tout le monde de m'avoir écouté.
Et Paul, on te retrouve à l'Olympia en décembre 22.
Oui. Partout, on le retrouve.
9, 10.
Et en tournée dans les grandes
Tournée mondiale.
Dans les grandes métropoles.
Internationales.
À propos de grandeur aussi, c'est du grand cinéma au sens technique, technologique du terme. On est en scope, on est dans un film de tradition nuit américaine et autre,
oui,
je sais pas comment.
Romanesque, ça vous le... flamboyante. C'était c'est un peu le cinéma de Karine Tardieu dans ses précédents films. Ouais. Et là, c'est sa facturelle. Et là, spécialement, elle avait envie que cette histoire intime soit magnifiée et un peu bigger than life, comme on dit. Donc, les nuits américaines, les retrouvailles sous la pluie, les séparations. Sur grand écran, quoi. Il y a quelque chose de très cinématographique. Dans cette
avec une lumière formidable qui, d'ailleurs, je cherchais le...
Zerfot.
Je vais le retrouver. Je vais le retrouver, mais c'est pas grave.
Eline, je connais son prénom. Eline, mais vous allez la retrouver. Ah. Excellent travail.
Eline
Kirchink.
Exactement.
D'accord. Pardon,
une grande chef opératrice qui nous vient de Belgique.
Et alors dans l'histoire de cette femme Fanny Ardant, lorsque vous l'avez lue, il y a aussi, quand on est actrice, on rentre dans la peau d'un personnage. On rentre dans un costume, on rentre dans une situation. Mais là, c'est votre peau dont elle avait besoin aussi pour des plans de mains, des plans de corps, des plans de dos. C'est-à-dire qu'elle, la caméra vous aime et vous caresse pendant ce film. Ça, il faut l'accepter aussi.
Fanny ?
Est-ce que vous vous êtes fait violence? Est-ce que au contraire c'était on vous l'a si peu proposé, vous avez dit mais c'est formidable de me donner cette occasion là aussi?
Non, j'ai pas pensé à ça. On est toujours en dehors de sa peau finalement. On est soi. La peau c'est ce que les autres voient. Donc moi, je jouais cette femme qui tombait amoureuse de cet homme plus jeune et avec tous les sentiments intérieurs de la lucidité de mon corps et tout. Après, Karine et sa caméra, elle faisait ce qu'elle voulait.
Ça va, tu l'as eu ta réponse, Nathalie.
Très, très bien. Je vous remercie Melville pour les commentaires simultanés et la traduction.
C'était parce qu'à chaque fois qu'elle parle, Fanny, moi je suis bouche bée, je trouve ça toujours magnifique.
Mais d'autant qu'elle nous a dit, la première émission il y a quelques années, de toute façon, je mens toujours.
Oui. Non, j'ai dit que je mentais sur des faits, pas sur ce que je croyais.
D'accord. Très bien. Et donc le fait de se dire, parce que on peut comprendre qu'il y a, et d'ailleurs on le ressent dans le personnage, qu'il y a une gêne, cette même gêne qui peut y avoir, cette forme de pudeur chez une adolescente qui fait l'amour pour la première fois, de ne pas vouloir qu'il y ait la lumière, de ne pas vouloir qu'on
Les voisins.
Ne me regarde pas quand je me déshabille, ouais. Ainsi de suite. Tous ces mots-là pourraient très bien aller vers de jeunes adolescents qui font l'amour pour la première fois. Or là, cette gêne, cette pudeur, vous l'avez parce que on est avec une dame de 70 ans et qu'elle ne veut peut-être pas que l'homme la voie aussi immédiatement en pleine lumière.
Complètement. C'est pour ça que elle donne ce titre, Karine, les jeunes amants. C'est-à-dire tout recommence comme au début. Mais que, comme je l'ai dit, ce que j'aime dans Shona, c'est qu'elle est très lucide. Et que ce n'est pas une séductrice. C'est pas quelqu'un qui croit que... Et le corps est entraîné par le cœur.
Elle a même peur de ne plus savoir faire l'amour. Ça fait tellement longtemps qu'elle n'a plus fait l'amour qu'elle ne sait pas. Et elle lui dit d'ailleurs, attention.
Elle lui dit. Ouais. Et lui, il a beaucoup d'humour quand il répond à tout ça. Donc, en fait, dans le scénario... C'est très honnête. Tout est dit. C'est pas juste comme ça une petite bleuette. Tout est dit sur le corps, sur la peau, sur le sexe. Mais que curieusement, vous me demandez ça à moi. Mais comme je ne regarde pas les films que je tourne, je n'avais besoin que de me préoccuper de ce qui m'animait dans mon cœur.
Les jeunes amants, une histoire d'amour, c'est signé Karine Tardieu. On va continuer de parler évidemment avec vous de ce film, parler de la musique également, puis on reviendra avec Catherine Grangeard qui est psychanalyste et psychosociologue. Elle a signé « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». La retraite sexuelle n'aura pas lieu. On parlera, hein, Melville au top, il lève les bras au ciel. On parlera avec elle justement de, à la fois du regard de la société et de la réalité de la sexualité des seniors qui n'est plus un sujet tabou et qu'on peut continuer de jouir
toute sa vie.
Sans doute. On va en parler avec elle. La musique en 83, Fanny Ardant, vous écoutiez.
Как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли, неземное страдание.
C'est Vladimir Vysotsky, c'était pas en 83. Dites-nous, non. Ça correspond à quoi cette musique? Qu'est-ce qu'elle vous évoque de l'entendre? Comme image ou comme lieu?
Vladimir Vysotsky dans les rues, qui dit tout ce qu'il croit, tout ce qu'il aime, malgré l'interdiction de dire ces choses-là.
Alors je ne connais pas cet artiste, vous pouvez nous...
Ah non,
non.
Alors je ne sais pas comment vous le présentez, il était dans les années 70, quand il y avait encore l'URSS. Il avait épousé une des plus belles femmes qui soit, c'était Marina Vladi.
Oui.
Et il écrivait ses poèmes. C'était comme les troubadours de l'époque médiévale. Ils sortaient dans la rue et ils chantaient avec une voix comme du parler chanté. Et ils disaient des choses très fortes. Ils parlaient des loups, ils parlaient de tout, de tout ce qui était interdit de dire.
Mmh. J'ai l'impression que Fanny Ardant, vous avez été agent secret, en fait. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai une sorte de flash. Je me dis, vous avez eu 15 vies.
En tout cas, si c'est vrai, elle ne te le dira pas. Hein.
Oui, je sais qu'elle ne me le dira pas, parce que sur les faits, elle veut
ou
mentir.
Elle mentira.
Mais sur les sensations, elle ne mentira pas, de toute façon. On revient à l'année 83, Fanny Ardant. On vous retrouve à l'affiche d'un film d'Alain René, La vie est un roman. Vous avez tourné 3 films avec Alain René. L'amour à mort et Mélo également. Vous dites que il y a des réalisateurs comme ça qui transmettent leur passion et que face à une telle passion de ce travail-là, de cette mise en image, il est impossible de ne pas, en retour, leur transmettre aussi dans le jeu cette passion-là, comme si c'était un échange de bons procédés.
Oui, c'est vrai que quand vous arrivez sur un tournage, si vous voyez le metteur en scène complètement passionné, envahi par tout, tu vois, une sorte de force incroyable qu'il, alors on a envie de tout donner. Mmh. Je pense que un metteur en scène qui serait calme et pensant, ça fait 20 ans que je fais ce métier, je sais très bien. Alors que j'aime dans un metteur en scène, comme justement Alain René, à chaque fois, il remettait comme un enfant dans la cour de récréation ses billes en jeu. C'était comme si tout était nouveau, mais vous voyez, avec une sorte de passion.
Est-ce qu'on aime, justement ? Est-ce qu'on parle de cet état amoureux, cet état un peu parfois transitoire ? Est-ce que le temps d'un tournage, on peut aimer intensément, même si on sait que c'est pas la vraie vie, mais aimer ?
Complètement. Parce que c'est comme des grandes histoires fulgurantes avec un début, un milieu et une fin. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours rentré sur les tournages avec des rôles et des projets que j'aimais. Et je n'avais jamais envie de gâcher un moment. Vous savez, comme quand on était enfant, les grandes vacances, on va pas commencer à les gâcher alors que ça va avoir qu'un temps, ces vacances. Alors que, voilà, les tournages avec des gens que j'aimais, avec des metteurs en scène et des scénarios que j'aimais, allez, il fallait vivre intensément.
Quand on aime, c'est aussi le cas dans le film Les Jeunes Amants, on n'a pas envie de décevoir l'autre. C'est, j'imagine aussi ce qui peut se passer entre un réalisateur et un acteur ou une actrice. Est-ce que à ce moment-là, ça veut dire qu'on va lui prouver tout ce dont on est capable, on va essayer d'aller plus loin que ce qu'il demande, ou au contraire, on est comme une marionnette manipulée par un marionnettiste?
Moi, j'aime beaucoup dire cette phrase quand je arrive dans un rôle, dans un nouveau film. Faites de moi ce que vous voudrez. Parce que je pense qu'on est toujours encombré par sa propre personnalité. Alors, ce qu'il y a de beau quand on joue au théâtre, au cinéma, c'est de perdre sa personnalité.
Ce contrôle. Mmh. Ouais.
Oui. Alors, on ne pense pas exactement comme ce que vous venez de dire. Moi, je trouve que quand on joue, c'est comme si on se jetait à la mer. Mais de savoir que quelqu'un qui possède tellement la passion de ce qu'il a envie de montrer au cinéma, justement comme Karine Tardieu, alors on sait qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Et que si ça va trop, ou pas assez, ou trop lent, ou trop rapide. Moi, je pense toujours à des grands metteurs en scène comme des grands jardiniers.
Mais par exemple, quand vous dites trop lent, trop rapide, est-ce que lorsque vous faites une prise d'une phrase ou d'une scène, il arrive que Karine Tardieu ou un autre réalisateur, réalisatrice dise marque un temps entre tel mot et tel mot, ou alors regarde-le quand tu fais ci, quand tu fais ça. Est-ce que ça va jusque dans ces détails-là ?
Ça peut arriver. Moi, je me rappelle d'avoir fait un film avec Michel Deville, et il y avait une scène où il voulait que ça dure, mettons, 55 secondes. Et puis je l'ai fait, il m'a dit « Ah non Fanny, ça a duré 56 secondes. » Mais je pensais qu'il y avait une jouissance. Comme vous savez, l'artisan, ou comme les violonistes avec des Stradivarius, de pouvoir changer quelque chose comme ça d'éphémère. Moi, ça m'excite beaucoup.
Et d'aller jusque dans le moindre détail.
D'accord.
Là, le voilà. Je me suis dit, ça fait trop longtemps. Il est 11h47, j'avais pas encore
entendu l'écho. On l'a attendu.
Enfin.
Melville Poupeau, vous écoutiez, vous.
Quel bringueur. Mais quel bringueur.
On a envie de fumer une cigarette.
On sent le mec qui a pécho des mineurs. Hein, ça.
Non, c'est horrible.
J'ai deux amours. Oui. Cette chanson, bah, c'est standard, ça, bah, c'est incontournable, évidemment. Pourquoi vous l'assimilez, vous la rapprochez de l'année 83?
Parce que je tournais mon premier film, La Ville des Pirates, de Raoul Ruiz. Et c'était un tournage très joyeux. Tous les soirs, l'équipe se retrouvait pour boire des coups, ce qui est de plus en plus rare, malheureusement, parce que les tournages sont de plus en plus encadrés. Mais à l'époque, c'était au Portugal, avec une équipe de sauvages qui s'éclataient à faire du cinéma. Et Raoul Ruiz aimait beaucoup faire la fête et il mettait souvent cette chanson-là pour danser avec les gens de l'équipe. Il y avait un côté très famille et convivial.
Fanny nous a tout à l'heure dit quelques mots de Vladimir Vysotsky. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de Raoul Ruiz? J'ai lu que le CNRS avait étudié son cerveau pendant qu'il travaillait et avait constaté qu'il y avait des connexions neuronales qui s'établissaient, qu'on avait vu chez personne d'autre.
Oui, c'est vrai. Bah, quand on voit ces films, déjà, on peut s'en apercevoir.
Alors justement, comment nous donner une image, quelques clés de compréhension comme ça de l'univers de Raoul Ruiz?
Baroque, onirique, surréaliste, mais surtout drôle. Ce qui est beau, c'est que toute cette puissance intellectuelle et tout ce savoir étaient mis au service à la fin d'une vaste blague. Et c'est comme ça qu'il voyait la vie, dans toute sa complexité, dans tous ses niveaux, mais il la voyait surtout comme une farce.
C'est compliqué de commencer avec un réalisateur comme ça, parce qu'après on ne peut être que déçu.
C'est ça, oui.
Ou un peu, ou en tout cas
non,
très
moi,
pointilleux peut-être.
Ça m'a donné le goût du cinéma, en tout cas c'était déjà pas mal. Et puis ensuite, il m'a accompagné jusqu'à la fin, il est mort en 2011, on a fait 12 films ensemble. Non, j'ai eu que de la chance avec ça.
En 96, Fanny Ardant, après votre écho de tout à l'heure, vous écoutiez... la version italienne.
Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a la voix de Dalida que j'aimais tant et Claire qui roule, j'aime bien.
Et la langue italienne, vous la trouvez évidemment, enfin j'allais dire évidemment, parce que je pense qu'elle est plus chantante que la langue française, avec toutes ses racines latines évidemment, la beauté de la langue française est indiscutable, mais l'italien il y a un truc en plus.
Je ne sais pas, mais moi je sais que quand j'ai commencé à tourner en Italie, j'étais très impressionnée par toute cette génération de Mastroianni, de Gassman, de Scola, qui faisaient l'effort de parler ma langue. Et donc, je me suis dit, il faut parler la langue des Italiens.
Et en italien, comme vous venez de le faire, il y a des accents toniques, ce qui n'est pas le cas en français.
La France, c'est tout. C'est la fin de la phrase qui porte son sens, tandis que dans les Italiens, c'est toujours la tempête.
On est en 96, Fanny Ardant, on vous retrouve dans Pédale Douce. Un film pour lequel vous recevez le César de la meilleure actrice pour cette interprétation. Quel souvenir vous gardez du tournage de Pédale Douce?
Ah, un souvenir très... Ça a été joyeux, j'entendais Melville, là aussi, très joyeux. Il y avait le monde de la nuit, il y avait le monde des trans, il y avait le monde comme ça des... Une sorte de folie. Et puis, comme ce film, personne n'y croyait. Donc, on l'avait fait comme avec des bouts d'allumettes.
Personne ne croyait à Pédale Douce?
Non.
Parce qu'il y a un casting de folie, quand même.
Ouais. Et puis, voilà, je me rappelle avoir beaucoup aimé jouer le rôle de Eva et les acteurs, Gabriel Aguillon. Vous voyez, exactement, on pouvait boire des coups sur scène.
Ça manque. Ouais.
C'était plus joyeux, ça avait l'air tellement plus joyeux.
Ouais. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé.
Mais ça va, hein. On aime quand même faire des films. Et puis nous, sur le film, on s'est amusé, Fanny.
Absolument, oui.
Justement, revenons à vous, Melville Poupeau. En 96-97, vous écoutiez... Vous avez choisi cette musique quand on vous a parlé de la période d'Eric Rohmer. C'est bizarre, je...
Oui, bah parce que c'est l'époque où...
Superpose mal les deux images.
Bah j'avais un groupe à l'époque avec mon frère, donc ça c'est FFF, le groupe de mon frère des années 90, qui a marqué la France entière par ses concerts,
grave.
Et puis notamment ce titre, Barbès, qui est un très très bon morceau de funk. On avait un groupe parallèlement avec Yarol, mon frère, qui s'appelait Mud. On a fait aussi deux albums et pas mal de tournées, et c'était... À l'époque, j'étais plus branché musique que Rohmer, et voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à mon frère aussi, qui maintenant a sa carrière solo sous le nom d'Yarol, qui sort des sublimes albums. Et voilà, pour parler de musique un petit peu. Mais il y avait de la musique dans Rohmer aussi, puisque je jouais de la guitare et je chantais ma petite chanson de Corsair, là.
Ça vous manque, vous, la musique en tant qu'interprète?
En tant que musicien, ouais.
Oui.
Ouais.
Ah, en tant que musicien, pas ouais, en tant que chanteur.
Non, j'aime pas trop chanter, mais par contre, j'en fais souvent de la musique en tant que musicien. J'ai bossé avec mon frère, avec Biolay, et puis là, je recommence avec mon frère. On va sans doute enregistrer un nouveau disque qui s'appelle Los Pupos, parce qu'on a un demi-frère qui fait aussi de la guitare, donc on va se faire ça tous les trois.
Évidemment, c'est dans votre ADN, ouais, tous ouais. les trois.
Et 97, c'est la rencontre avec Romer, en effet, qui jouait du piano, vous jouiez de la guitare, qui vous faisait prononcer votre texte, parce que je crois qu'il considérait que vous ne parliez pas suffisamment, de façon suffisamment audible.
Il avait peur, comme c'était un film qu'on allait tourner ouais. sur des plages bondées au mois de juillet à Dinard, sans micro-cravate, mais avec une perche et tout ça, beaucoup de monde, le bruit de la mer, et puis souvent en maillot de bain. Il avait peur qu'on n'entende pas la voix des acteurs dans ces conditions-là. Du coup, il m'avait fait répéter mon texte pendant qu'il était parti dans la cuisine faire bouillir de l'eau en mettant la radio à fond. Et une fois qu'il a vu que j'étais capable de beugler son texte, il m'a fait...
Nous allons continuer et revenir sur Les Jeunes Amants, le film de Karine Tardieu, avec vous, Catherine Grangeard. Merci de venir à ce micro. Vous êtes psychanalyste et psychosociologue. Vous avez écrit un livre qui est carrément une question, du moins qui est la réponse à la question. Il n'y a pas d'âge pour jouir. C'est une affirmation, il n'y a pas de doute.
Oui, il n'y a pas de point d'interrogation.
Non, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de doute.
Et la suite, c'est la retraite sexuelle n'aura pas lieu. Voilà.
Le livre est né parce qu'il y avait eu des propos disant qu'à partir de 50 ans, une femme était non désirable. Et donc, en tant que psychanalyste...
Ah, oui. C'est une personne qui...
Oui, c'est une.
Cette personne voilà. N'avait pas été démentie par beaucoup d'autres. Et donc, en tant que psychanalyste, voilà. dans mon cabinet, moi, j'entends ce que ça a produit. Mmh. Et donc, des personnes... des femmes complexées, pleurant, etc., etc. Il y a aussi dans la société énormément de choses qui circulent. Un film comme le vôtre va être un modèle d'identification et donc c'est extrêmement intéressant pour faire bouger des problèmes.
Alors justement, ce nouveau discours de dire et de l'exprimer clairement, il n'y a pas d'âge pour jouir, très bien, on s'en rend compte dans le film. Est-ce que c'est d'abord l'entourage qui pose un problème, le regard des autres?
Il y a l'entourage, mais il y a aussi ce qu'on en pense soi-même. Par exemple, Fanny, vous étiez plus gênée dans le film que votre amoureux. Et il y a quelque chose que nous avons, je vais le dire... en psy, introjecté, que nous avons à force d'entendre les choses, on y croit et ça devient une vraie prison. Donc c'est tout ça qu'il s'agit d'interroger, qu'il s'agit au-delà d'opinions, au-delà d'affirmations peut-être un peu à thèse ou militantes, de repérer ce qui fonctionne dans une société et ce qui peut limiter. Alors je suis psychanalyste, je vais dire très rapidement quelques mots d'Oedipe. Moi je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus de gens qui avaient des amants extrêmement âgés, ou alors des femmes qui choisissaient plus d'hommes très, très âgés. Parce que nos premiers objets d'amour, ce sont nos parents. Il y a une génération d'écart. C'est un amour inconditionnel. Sans eux, on ne survit pas, au sens propre du terme. On ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se protéger, on ne peut pas, etc., etc. Donc ce transfert sur un autre objet d'amour ultérieur, évidemment, ça peut interroger pourquoi, et la société, alors je vais très très vite, hein, on n'a que quelques minutes, la société a mis sur pied des tabous, ça sert à ça les tabous, à ne pas enfreindre, vous connaissez l'histoire de Oedipe, hein, Sophocle, Freud le reprend, etc. Pourquoi ça marche depuis l'Antiquité? C'est probablement que dans nos inconscients, il y a quelque chose d'inscrit comme ça. Alors le tabou, ça sert à se protéger, parce que ça finit mal quand même dans l'histoire d'Oedipe.
Oui, enfin le tabou c'est de ne pas coucher avec sa mère, c'est pas forcément la différence
pas
d'âge.
Que, on tue pas aussi son père.
Mais évidemment, oui, mais enfin, je vais commencer
oui,
par
on fait un raccourci.
J'allais à l'essentiel, oui. Est-ce que justement on parle de l'image et vous dites que le film va faire du bien, est-ce que l'image du couple présidentiel a fait du bien aussi?
Génial. J'ai des patients qui me disent, moi ce que je préfère chez Macron,
c'est sa femme.
Et ce modèle à l'étranger... qui est complètement différent des autres, je ne citerai personne, tellement différent, et ça c'est génial, parce que du coup, nous représentons autre chose. Et Brigitte est très investie par beaucoup de personnes. Alors au début, ils ont été moqués, bien sûr, puisqu'on est différents. puisque toujours ça fait peur, la différence. Mais ensuite, c'est quelque chose qui est notable. Les normes, vous savez, c'est à la fois ce qui est statistiquement le plus répandu et en termes non pathologiques. Donc c'est dangereux ce mot de norme. C'est dangereux parce que dès que vous n'êtes pas exactement dans les rails, on peut penser que vous êtes un peu barjot. Donc voilà, c'est tout ça qui me fait dire que oui, Macron, tant mieux, que oui, le film Les Amants, ce sont des modèles d'identification, ça va contre des normes. Et en plus, cet homme qui ose... dans le film, ouais. Pierre, enfin, vous, oui. Melville, qui ose aller contre tout un tas de préjugés, tout un tas de freins, c'est vraiment magnifique. Ça, voilà, et pour moi, je pense que nous allons dans le même sens, que nous aidons, et c'est mon job, hein, des gens à se libérer d'injonctions auxquels on ne peut ne pas réfléchir, et plus on va dans ce sens-là, et mieux c'est.
Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu.
C'est chez Larousse.
J'allais dire Erol.
Eh ben non, Larousse.
Très bien, vous savez mieux que moi.
Non,
bah dis donc,
merci. Dis donc, coquin, petit coquin, va.
Voyou.
Voyons, Nagui.
Fais voir les doigts,
Ça stop, ça suffit.
Et on ne couche pas avec sa mère.
Merci, Catherine Grangeard. On continuera de parler jusqu'à midi et demi des jeunes amants avec Fanny Ardant et Melville Poupeau après les infos. C'est la bande originale avec Leïla Kadeboudeh, Morgane, Gabinia Rampol, Mirabel, Daniel Morin,
bonjour Morgane, bonjour
Daniel Poupeau et l'excellent Fanny Ardant.
Ah oui!
L'excellent Melville aussi.
Merci mon ami.
Oui, mais je suis légèrement plus amoureux de Fanny Ardant que de Melville. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un moment de faiblesse. Cécile de France est bouleversante aux côtés de Florence Loiret-Caille également. Ah. Je crois que Cécile avait déjà travaillé avec Karine.
Oui, dans le film précédent de Karine.
Tardieu.
Absolument, ôtez-moi d'un doute.
Exactement, on en avait parlé ici avec François Damien, si ma mémoire est bonne. Ce film sort ce 2 février, c'est Jeunes Amants, film bouleversant parce que il y a à la fois un côté, évidemment, cette histoire d'amour, il y a à la fois ce suspense en se demandant qu'est-ce qui va se passer, et puis c'est tout un mélodrame, mais j'allais dire au sens noble du terme, c'est-à-dire que tout le monde est chamboulé, personne ne sort indemne de cette histoire d'amour, Fanny Ardant, dans votre proche, votre famille, votre propre fille, qui est même extrêmement heureuse dans un premier temps, c'est-à-dire qu'elle elle voit que votre regard, que votre sourire, que votre joie de vivre a changé.
Oui.
Oui, parce qu'en fait,
absolument.
Oui, c'est comme une explosion. Et dans une explosion, il y a les réverbérations,
les impacts sur les autres aussi.
Voilà.
Et ça a donc un écho sur votre propre fille.
Exactement. Et quand on voit justement ma fille, on pourrait penser que ce garçon qui arrive à ce dîner, ça serait l'amant idéal pour la fille. Ben non, c'est pas comme ça. Mais cette fille, ma fille est tellement magnifique, elle est contente pour sa mère.
C'est ça, elle est pas jalouse.
Non, ouais. Mais qu'elle a peur aussi quand elle la voit
si bouleversée. C'est la mère qui a peur. C'est la mère qui a peur de lui dire.
Et quand vous parliez justement de Cécile, la femme de Melville, et je pense que c'est un personnage qui a, comme vous avez dit, d'abord qui passe par la rigolade, qu'est-ce que tu fais avec cette vieille dame? Ensuite, la colère. Mais après, vous avez vu le développement de son personnage, l'arc de son personnage.
Incroyable.
C'est comme un personnage, tu vois, qu'elle aime tellement son mari, qu'elle préfère qu'il soit heureux. Mais pourquoi, il faudrait pas le dire, c'est ça?
Si, bah, si. Bon,
mais finalement, on a tout dit.
Bien sûr. Bien
non, mais pardon, mais.
Et puis d'ailleurs, c'est pas l'émotion.
Voilà,
et on sait toujours pas ce qui va se passer. Et il y a aussi cette scène, cette rencontre, qui est dans la bande-annonce, cette rencontre entre Cécile de France et vous, entre le personnage, donc, de la femme trompée et de la maîtresse. Et ça fait toujours partie de ces climax en disant, mais que va-t-il se passer entre la femme et la maîtresse lorsqu'elles se rencontrent? Et c'est ce suspense-là qui est présent, avec beaucoup de psychologie aussi. Comment Karine Tardieu rentrait dans vos esprits, dans vos cerveaux pour jouer avec cette
psychologie? Avant Karine, il y avait quand même Solveig, et puis Agnès de Sacy, la scénariste, qui est une excellente scénariste, donc c'est aussi des femmes qui ont l'habitude de pas faire de la psychologie, mais disons de bien dessiner les personnages au travers de ce qu'ils se disent, et les subtilités. C'est un film qui est très subtil, et ce qui est beau, c'est quand on le voit en salle, nous on l'a présenté beaucoup en province, dans des pour des avant-premières, et on entend les réactions des gens dans la salle. L'autre jour, il y avait deux dames âgées qui étaient là en se poussant du coude. Oh, pourvu que ça m'arrive aussi. Il y avait tout le monde s'identifie à un personnage ou à un autre, à Cécile de France, effectivement.
Ouais, mais enfin, toutes les femmes ne sont pas aussi belles que Fanny Ardant. Mais il y a un moment où c'est là où c'est du cinéma, quoi.
Mais, bah, évidemment que c'est du cinéma, mais n'empêche que ça fait rêver, mais c'est bien aussi.
Non, parce que moi, par exemple, si j'avais été un homme, je serais tombée amoureux de Golda Meir.
Ah oui, qui est quand même pas d'un physique hyper facile.
Non, mais ce qui se dégageait de cette femme était si extraordinaire.
Qui dirigeait quand... Israël, ouais.
Pas vous?
Pas, moi, non,
amoureux
de...
Israël, hein.
Non, mais vous auriez pu tomber amoureux de Golda Meir.
Elle était Premier ministre de...
Ouais, ouais,
non,
ouais,
c'est ça. Oui. Alors, le pas vous, c'était quoi? Si je tombais amoureux de...
Golda Meir?
Non.
Pourquoi?
Alors,
tu peux pas savoir, il faut la rencontrer déjà.
Oui,
peut-être qu'elle va dégager quelque chose d'incroyable et qui fait que tu vas la trouver fantastiquement belle, même si elle représente pas les canons de la beauté.
On tombe amoureux de la beauté.
Ouais, moi aussi.
Non.
On tombe amoureux de.
C'est l'alchimie, c'est la peau, en fait.
Oui.
Alors.
Alors, c'est de ce que
c'est là. C'est peut-être là le sujet. Il faut que je me sorte de cette histoire. Et puis Fanny Ardant, c'est pas vous qui posez les questions ici, sinon on sortira pas.
Voilà, quoi.
Fanny Melville, Fanny Ardant, Melville Poupeau à l'affiche des Jeunes Amants, le film de Karine Tardieu avec Cécile de France, avec Florence Loireca. Je voudrais aussi citer Sharif Endura. Et Sarah Enoxberg aussi qui joue Rosalie dans ce film. Je l'ai dit, Tanguy Pastureau se repose.
Fatigué et pépère.
Voilà, fatigué pépère. Il y en a un autre qui nous fatigue, mais il est là. C'est Daniel Morin.
Récompensé. Bravo. Est-ce que Nagui pourrait tomber amoureux de Golda Meir? Ça, c'est la question du jour. Mais aujourd'hui, mon héros du jour n'est pas Nagui, mais ça aurait pu être Jean-Yves Le Drian. Eh oui, déjà parce qu'accepter de s'appeler Jean-Yves pendant 74 ans, c'est faire preuve d'une force de caractère, mais aussi et surtout parce que c'est un métier difficile que celui de chef de la diplomatie. Il faut parfois faire preuve de fermeté. Exemple, quand l'ambassadeur de France au Mali est expulsé, il a fallu montrer que la France ne s'en laisse pas compter, et là le ministre... Il a montré les muscles. Suite à l'expulsion, il a déclaré
« J'en prends bonne note ».
Waouh ! Ça, c'est cinglant ! Là, au Mali, je peux te dire qu'ils ont bien les boules. Pourtant, malgré cette démonstration de force incroyable, Jean-Yves Le Drian n'est pas mon héros du jour. Non, mon héros, c'est Monsieur D. Qui est Monsieur D ? Eh bien, Monsieur D, c'est un gaillard qui mesure 2,04 m, dont la force est qualifiée d'herculéenne, mais qui, malheureusement, a du mal à maîtriser ses nerfs. Il est en effet habitué à la détention en hôpital psychiatrique. Alors concrètement, il fait quoi, Monsieur D ? Eh bien, quand il n'est pas content, il casse le mobilier, il tape le personnel. Une fois dans la rue, il est monté dans un bus, il a pulvérisé tout l'intérieur. Quand la police est arrivée, il a retourné la voiture des policiers.
Mais non.
À l'hôpital, un jour, pour le maîtriser, il a fallu l'intervention de 19 personnes.
Mais c'est un Marvel ?
Là, presque. Là, il a attendu pour passer du temps à l'hôpital psychiatrique de la Conception à Marseille. Réaction ? 14 arrêts maladie demandés et un appel à la grève, mais ce monsieur, il faut absolument qu'on l'aide à optimiser ses points forts. Et pour ce faire, à midi passé de 14 minutes précises, je vais en appeler solennellement.
C'est pas au président.
À Emmanuel Macron.
Mais laisse-le.
Monsieur le Président, vous l'avez constaté, Nagui refuse de répondre à la question « Pourriez-vous tomber amoureux de Golda Meir ?» Mais vous avez constaté aussi que le sujet de l'insécurité est un sujet majeur en ce moment. Comme le rappelle tous les jours le rédacteur en chef de cette émission, Jean-Baptiste Pétain, il faut une France plus sévère, une justice plus stricte, il faut lui en mettre plein la gueule à la racaille, rangeons le Karcher, sortons les gourdins. Monsieur le Président, si vous voulez reprendre en main le dossier de la sécurité et nommer comme ministre de l'Intérieur Monsieur D. Oui, avec Monsieur D, plus de manifs qui débordent. Monsieur D, il utilisera des canons à eau pour disperser la foule, mais sans utiliser l'eau. Il jettera les camions. Croyez-moi, ça va calmer les plus fougueux. Monsieur le Président, c'est une occasion qu'il ne faut pas laisser passer. La France a bien fait de la place à Mister Cocktail. Elle est prête pour accueillir Monsieur D.
Merci, Daniel Morin. Et je ne peux pas tomber amoureux de Golda Meir, je suis déjà amoureux.
De Golda Meir ?
Non, de ma femme. Voilà. On ne peut pas tomber amoureux.
Non, mais tu sais, l'amour, on ne s'y attend pas.
Est-ce qu'on peut tomber amoureux deux fois, en même temps ?
Bien sûr.
Fanny ?
Trois fois.
Oui ?
Oui.
Mais on a dit qu'il ne fallait pas être malheureux en amour pour tomber amoureux par ailleurs.
Ouais. Exactement.
Non, d'accord, mais je parle de en même temps.
Ben oui, justement.
Parce que ça ne se cherche pas, l'amour. Il se trouve.
Il arrive.
Il arrive, il tombe dessus.
Il saute dessus.
Oui, mais alors, là, va.
Tiling.
Oui, mais c'est pas si
bonjour, c'est l'amour.
Fou, ça. Non, enfin bon. Bon, c'est pas du tout mon sentiment ni ma théorie. J'ai l'impression que quand on aime, on peut aimer qu'une personne. Qu'après on dise, on n'a pas besoin d'être malheureux en amour pour changer d'amour, en aimer une autre ou non, un autre.
Il y a plusieurs choses. Il y a l'amour et puis il y a la passion. Là, en l'occurrence, dans le film, c'est vraiment la passion. C'est-à-dire que rien ne résiste à ça.
Donc il n'y a qu'une passion, on est d'accord?
Non.
Bah, je pense que mon personnage aime aussi sa femme. Il est très attaché. C'était un beau couple. Il est malheureux lui-même de voir que ça s'effondre. Mais c'est plus fort que lui. C'est la vraie passion.
C'est lui qui part.
Oui.
Mais
c'est
lui qui part. Oui,
c'est lui mais il peut y avoir le, du non, le polyamour. Non, mais le polyamour, ça existe.
Il peut y avoir le polyamour. C'était Hélène de Fougerolles qui nous en avait parlé à ce micro. Je respecte, je ne discute pas ça. Je dis simplement que j'ai le sentiment qu'il.
Tu veux pas aller avec Golda Meir, toi.
Mais qu'est-ce que t'as contre Golda Meir?
J'ai pas envie d'aller avec une autre. Laissez-moi tranquille.
Bon, elle est pas dispo. Elle est pas dispo.
Elle est sympa.
Parlez que parlons que tu.
C'est un bon titre, ça. Golda est sympa.
Un petit jingle.
Je vais appeler ma femme. Je vais lui dire tout ce que vous me filez comme idée pourrie dans la tête.
On va en Irlande pour lutter contre la crise du Covid.
On retourne en Irlande, parce que les jeunes amants, ils sont en Irlande.
Le gouvernement réfléchit à créer quelque chose pour lutter contre la crise du Covid. On est dans le monde de la culture,
Un fonds.
Un fonds d'aide.
D'aide,
au milieu culturel.
Oui, mais qui s'attribuerait comment? Non, pas pour les jeunes. C'est pas mal, on croit que... Un siphon?
Non.
Pardon?
Un fonds.
Un fonds, un fonds, absolument. Un fonds qui serait, alors je vous donne la réponse, c'est un revenu de base. C'est plus qu'un fonds, en réalité. C'est un revenu de base pour les arts. Il y a à peu près 2000 artistes qui seraient concernés par cette mesure, qui pourraient commencer à être appliquée au printemps. L'idée, ça serait de verser une somme de équivalent à 390 euros. Par semaine.
Quel que soit le nombre d'heures que tu aies pu faire dans le métier des intermittents de spectacle.
Versé dans un premier temps aux musiciens. En gros, ils n'ont pas encore complètement défini les conditions à remplir pour être éligibles pour obtenir cette somme versée de façon hebdomadaire. Nous, en France, on a heureusement le statut d'intermittent du spectacle.
Qui n'est pas simple non plus.
Qui n'est pas facile à avoir parce qu'il faut en effet un certain nombre d'heures. Il s'avère que depuis longtemps, beaucoup d'artistes n'ont pas pu s'exprimer puisque les salles ont été fermées, que des choses ont été reportées. Est-ce que vous, dans vos carrières respectives, être intermittent, ça a été important?
Bah ça l'est toujours moi. C'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. On a l'impression qu'ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous empêcher d'avoir accès à l'assurance chômage. Quoi. Mm-hmm. Mais moi je fais ça, c'est une habitude. J'ai commencé quand j'avais 10 ans le cinéma, alors dès que j'ai pas toujours eu de l'argent et m'a aidé pendant...
Comme les congés spectacles et autres...
C'est une belle chose, faut le défendre.
C'est essentiel.
Sûr. Mais moi, je pense surtout aux musiciens dans cette période, parce qu'avec le Covid, les acteurs, nous, on a eu la chance de pouvoir tourner des films, mais tous les musiciens privés de concerts et tout ça, et ça, c'est dramatique.
Tous les techniciens aussi. Ouais,
ce qui est bizarre, c'est le regard du public qui entend des noms de stars, de vedettes, et qui entend le mot après au chômage et toucher des indemnités, et les deux mots ne vont pas ensemble dans la même phrase.
Mais tous les acteurs ne sont pas des vedettes et des stars.
Aux yeux du public, souvent, en tout cas, c'est le cas. Quand vous dites je profite de ce statut, j'en ai besoin et j'ai pas d'autre solution pour le faire, et vous le dites très
honnêtement. Des périodes, même les stars, ils ont après, si on est milliardaire, on est milliardaire. Moi, je suis pas milliardaire, malheureusement. J'ai toujours choisi des films d'auteurs et des petits films, ce qui fait que j'ai jamais réussi à m'acheter une maison.
On va se calmer. Il y a pas beaucoup d'acteurs et d'actrices milliardaires en France. C'est une image que l'on peut avoir. Faut pas mélanger le star system américain avec des 100 millions de dollars par film avec ce qui se passe en France.
Bien sûr, mais je parlais pas des stars, je parlais des gens, des acteurs normaux qui travaillent et qui ont besoin de vivre entre deux tournages. C'est normal.
Autre question. On va parler d'un musée, c'est une mini galerie d'art qui va contenir 64 œuvres au moins d'un centimètre. Cette mini galerie étonnante va être inaugurée.
La mini France miniature.
Non, pas France miniature, où ça? Une mini galerie d'art, c'est complètement fou.
Dans un mini musée?
C'est pas dans un mini musée.
Dans un tout petit pays, au Luxembourg.
Pas au Luxembourg, ça c'est marrant. Au contraire.
À Disneyland.
Ça va pas être facile d'y aller.
En Australie.
Ça va pas être facile.
Ah non, dans l'espace.
Ouais, et puis précisément
bah, sur la Lune.
Absolument, sur la Lune. C'est une nano-galerie qui va présenter donc plus de 64 œuvres de moins d'un centimètre chacune, ces œuvres. Cette nano-galerie va voyager à bord de la Station Spatiale Internationale avant son ancrage permanent sur la Lune.
C'est une bonne idée.
En gros, ils ont sollicité des artistes internationaux pour proposer justement dans des cases d'un centimètre des œuvres et ce musée va s'envoler en février, donc dans très très peu de temps. Alors bien sûr, c'est un projet complètement fou, montre en tout cas que symboliquement on veut qu'il y ait une manifestation de l'art sur la Lune.
C'est un bon investissement.
Je peux avoir un petit moment de démago.
Ah mais non mais vas-y.
C'est-à-dire que le blé que ça va coûter par rapport aux besoins, justement, on parlait tout à l'heure des.
Attends, on va pas envoyer spécialement la nano-galerie, c'est-à-dire que la Station Spatiale Internationale va partir et au passage.
C'est pas un voyage dédié.
Non, c'est pas un voyage dédié, on va pas dire attendez, là on fait une mission.
Ça va coûter quand même.
Non mais c'est.
Mais tout ce fric dépensé, ça pourrait servir à Melville Poupeau, par exemple.
C'était ma piscine.
La piscine de Melville.
La piscine de Melville.
Est-ce qu'il y a un projet fou que vous aimeriez réaliser? Je pense à la réalisation, par exemple, Fanny Ardant, vous avez déjà réalisé des films. On en avait parlé ici avec le divan de Staline, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'il y a un projet fou que vous aimeriez mener à terme en ce moment? Et quelque chose qui vous excite, qui vous donne envie de vous lancer un nouveau défi?
Non, parce que je le formule pas comme ça.
Ouais, comment vous le formulez?
Comme ça arrive dans l'obscurité du couloir.
Ouais.
Et puis, parce qu'écrire un scénario, etc. Donc, je pense pas... Par exemple, quand vous me parlez de cette petite chose envoyée sur la Lune, je comprends ce que vous dites, mais je trouve ça très poétique.
Moi aussi, je trouve ça génial.
Mais, vous savez, aussi, il y a des films... que j'ai reçu et qui ne se sont pas faits parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc on attend toujours que... Ça, c'est les trucs... On ne voit que ce qu'on n'a pas fait comme rêve fou. Parce qu'en fait, tout est fou.
Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou, vous?
Dans la vie?
Ouais.
Ah ouais, non, ça, j'en parlerai jamais dans une radio.
On peut sortir.
Mais après,
on peut sortir si vous voulez.
S'il vous plaît.
Sortez-moi de là.
Alors, on a quelqu'un qui, hier, avait une question pour vous, Fanny Ardant.
Dites-lui qu'elle vous parle du beau projet que nous avons ensemble.
Vous avez reconnu sa voix? Vous avez joué avec lui?
C'est un homme ou une femme?
Non, si c'est une femme, elle est fatiguée.
Ah, je sais.
Ah.
Vous avez été dans son clip en plus.
Daniel Auteuil.
Mais oui.
Alors, ce beau projet.
Donc il vous pose une question.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a posé comme question?
Dites-lui qu'elle vous parle du beau projet que nous avons ensemble.
Ouais. De jouer une histoire d'amour folle entre Monsieur de la Tour et Madame de Clermont sur un livre de Laurence Plasney.
Bon, j'ai perdu mon pari.
Ah ouais, tu pensais qu'elle allait pas te le dire.
J'avais parié que vous alliez pas le dire. J'avais dit ok, elle va pas le dire.
On sait pas si elle dit la vérité en tout cas.
Si, j'en suis sûr. Si, j'en suis sûr. On vous retrouvera le 12 octobre prochain, Fanny Ardant, dans Les Volets Verts de Jean Becker, avec Gérard Depardieu et Benoît Poulvorde, entre autres. Et ma douce épouse, d'ailleurs, tiens. Pendant que j'y pense. Le 9 novembre, vous serez dans Couleurs de l'incendie de Clovis Cornillac. On en avait parlé avec Pierre Lemaître à ce micro, l'adaptation de son roman. Et vous allez commencer le tournage complètement cramé, c'est ça?
Oui.
Quel est le personnage dans ce film? Votre personnage? Il porte bien son titre, hein, complètement cramé, donc c'est pas grave, on va évoquer un autre film. Vous allez jouer avec Danny Boone. Moi, je m'en fous, je lâche rien, Fanny, mais allez-y.
C'est mal, hein.
Les Rois de la Piste, là, c'est une comédie avec Danny Boone?
Oui.
Que vous avez tourné ou que vous allez tourner?
Que je vais tourner.
Que vous allez tourner, très bien. Petite Fleur, là c'est vous, Melville Poupeau, que l'on va retrouver devant la caméra de Santiago Mitre. C'est un...
Un Argentin.
Mitre, il faut prononcer, pardon.
Oui, c'est comme ça qu'on
l'appelle. Très bien, vous avez raison de me corriger. Votre personnage, vous dites qu'il est délirant.
Bah, le film est assez surréaliste, parce que je me fais tuer 18 fois de suite.
Ah ouais.
Et je reviens à chaque fois pour pourrir la vie de mon voisin.
Ambitieux.
C'est une comédie un peu borgésienne.
Paul, ouais, bah voilà, c'est ton concierge.
Si vous êtes au casting d'Un beau matin également, ou encore de Frères et sœurs d'Arnaud Desplechin, vous avez tourné la saison 2 d'OVNI.
Oui, qui sera diffusée en février.
Sur, magnifique, très réussi. Sur Canal. Et le projet musical avec
Los Pupos.
Yarol.
Los Pupos.
C'est ça, Los Pupos. Hein.
Ouais.
Mais c'est pas que avec Yarol, c'est avec votre
frère. Et César,
frère.
Notre frère aussi.
Voilà, très bien. Et là, c'est un trio. Alors, projet musical, ça veut dire faire un album, ça veut dire faire des concerts, partir en tournée.
Ça veut dire qu'on a pris l'habitude, quand on se retrouve en famille, de faire des jams, des boeufs, d'improviser des chansons. Et depuis le temps, on en a une collection. Et là, on a envie de faire une espèce de best-of de toutes ces chansons de Los Pupos qui ont trimballé depuis 30, 40 ans.
Marcher, fonctionner à l'envi, c'est évidemment un moteur, une chance et un luxe, un confort. Est-ce qu'il vous arrive, Fanny, j'imagine que vous êtes extrêmement sollicitée et extrêmement demandée, mais est-ce qu'il vous arrive, vous aussi, de faire la démarche, de dire « j'aimerais travailler avec vous, partager la scène ou avancer sur un projet ensemble ?»
Non.
Vous attendez qu'on vienne à vous ?
Oui, j'ai l'impression que j'ai toujours pensé que c'est comme les histoires d'amour. Vous pouvez pas demander à un homme le supplier de vous aimer parce que
pourquoi
la poudre serait.
Pourquoi ça serait que dans un sens aussi
Non, il faut que un film arrive comme un coup de foudre, plus que par une sorte de stratégie, de volonté absolue de rentrer dans un univers. Moi, je préfère de ne pas savoir d'où arrivera le coup.
D'accord, mais si on reste sur l'image de l'amour, on peut faire des déclarations aussi.
Ah oui, mais il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui soit venu vers vous.
D'accord. Donc vous n'avez jamais fait la démarche d'écrire à un réalisateur ou à une autre actrice en disant « ça serait formidable que nous partagions un jour ».
Non, jamais. Et il y en a plein que j'attends. Peut-être que ça n'arrivera jamais.
Ah ouais.
Mais justement, quand on parlait de l'amour, moi j'aime beaucoup toujours dire cette phrase de Marguerite Duras, vous savez, elle disait « attendre l'amour, c'est déjà de l'amour ». Ben, attendre un metteur en scène, si tout d'un coup un jour ça arrive, alors là c'est quelque chose de prodigieux.
Les Jeunes Amants, le film est sublime, encore une fois, mille bravo et à toute l'équipe, et à vous deux, et à la réalisatrice, et à tout ce qu'il y a dans ce film, et toutes ces valeurs aussi qui sont là autour de cette histoire d'amour. Elle n'est pas comme les autres, mais finalement, toutes les histoires d'amour sont différentes. Et celle-là, on est une de plus, extrêmement forte. Et c'est un très beau film, c'est un très bel objet. On parlait d'art tout à l'heure et d'exposition. C'est aussi un film à voir en cinémascope, dans une belle chambre obscure, avec une sublime lumière et une belle réalisation. Des excuses à présenter, Daniel Morin, avant de se quitter.
Déjà, désolé pour François Berléand, qui a très mal pris, qu'une fois de plus, une fois encore, encore et toujours. Nagui s'attaque à lui en parlant d'acteurs mauvais qui tournent. Trop. C'est vrai que c'est méchant, mais je vous rassure, François, à la pause, il a aussi parlé de Pascal Elbé, Thierry Lhermitte et Édouard Baird. Désolé pour Melville Poupeau, notre invité, qui a découvert ce matin que son personnage dans le film avait été trompé par Cécile de France. Oui, il n'a pas vu le film. Du coup, la production est furieuse de ce foirage de promo. Conséquence, deuxième surprise pour vous, Melville Poupeau. Vous n'allez pas toucher votre cachet. Bye bye la piscine. Désolé pour Monsieur Kadour Boudadi, qui encore une fois ce matin a compris les menaces de Madame concernant la tromperie, l'adultère, l'abandon. C'est simple, Monsieur Kadour Boudadi, elle a même décidé de partir avec notre intervenante psychosociologue Catherine Grangeard, spécialiste orgasme et art de vivre.
Non, moi je parle avec Fanny.
À quoi vois-tu
merci.
Pas,
je merci, Fanny Ardant. Merci, Melville Poupeau. C'est demain au cinéma, Les Jeunes Amants.